LSD, la série documentaire. Un podcast France Culture.
Professeur Le Mal de l'école, par Johanna Bedeau et Angélique Thibault. Quatrième épisode, prof en devenir.
A eu la bonne idée d'alterner un petit peu avec un travail préparatoire sur la symétrie, qui prépare le chapitre d'après. Donc ça, c'était un autre point positif. Après, il m'a semblé, justement, j'aurais ton avis, parce qu'il m'a semblé que tu étais quand même vraiment agacée par le bruit dans la classe.
Enfin, j'ai encore du mal à gérer ça. Mais je sais qu'il faut que je sois un peu plus souple. Mais j'ai du mal.
Voilà, parce que tu leur demandais souvent de faire silence.
Silence, non, mais parler moins fort.
Parler moins fort, oui. Alors, moi, de mon point de vue, pour un cours de début d'après-midi, c'était très, très calme. Hein. C'était très...
Le niveau sonore était très bas. L'année dernière, on me le disait déjà tout le temps, mais je sais pas, j'ai une tolérance au bruit qui est peut-être moins forte.
Donc, je pense qu'il faudra qu'on réfléchisse là-dessus, sur qu'est-ce qui t'agace.
Ouais.
Moi, je vois un peu la tenue d'une classe comme une virée en kayak dans une rivière en eau vive, quoi. Donc, on est dans la rivière, on va faire un chouette voyage, et si on reste dans le sens de l'eau, on va aller loin, on va avoir des beaux paysages, ça va être chouette. Et puis, dès qu'on essaye de ramer à contre-courant, bah, c'est épuisant, c'est pénible, et puis on n'avance pas, quoi. Mais bon, des fois, ça secoue, et des fois, il y a quand même des sacrés coups de rame à donner pour remettre le kayak dans la bonne direction. C'est pas facile, quoi, en arrivant de savoir quand est-ce qu'il faut ramer fort ou quand est-ce qu'il faut lâcher, quoi. Et bon, mais voilà, c'était vraiment, je veux dire, un début très, très prometteur. Et voilà, faut que tu aies confiance en tes capacités. Ça y est, t'es une vraie prof.
Bien que l'éducation nationale continue de recruter et de former de futurs professeurs, la question « qui veut encore être professeur ?» souligne une réalité préoccupante, partagée par de nombreux pays. Aujourd'hui, à l'occasion de la rentrée scolaire, le manque d'enseignants se fait ressentir plus que jamais. Les personnes en reconversion professionnelle ne suffiront pas à résoudre cette crise.
On est des éternels, en fait, débutants, même nous, hein.
En 2021-2022, on comptait 2836 démissions d'enseignants, soit 0,4% de l'ensemble des enseignants. En 10 ans, le taux de démission des enseignants a augmenté de 0,34%, soit une progression de près de 700 points. Le manque de reconnaissance sociale, des salaires jugés insuffisants par rapport à la charge de travail et des conditions difficiles dans certains établissements sont souvent cités comme des freins à l'entrée dans la profession. Pourtant, chaque année, de nombreux candidats comme Soyane ou Emily se présentent au concours et entament leur nouvelle carrière.
Des questionnements, par exemple, je ne sais pas trop comment je fais.
C'est là qu'ils veulent être.
Est-ce que je suis trop permissif ou etc.
Car une fois en classe, face aux élèves, quelque chose d'authentique et de puissant se produit.
Si ça te... Ah oui, non, au contraire, il faut l'échange d'expérience, en fait, c'est ça qui permet d'avancer. Pas attendre.
Je suis Soyane, tu vois, enseignante de sciences économiques et sociales.
Je m'appelle Céline Michael, je suis enseignante de sciences économiques et sociales.
Madame Noblet.
Je me présente, hein, monsieur Guy.
Ah. Bonjour, je m'appelle David, j'ai 42 ans.
Monsieur Guillotot.
J'ai 23 ans.
Tu vas le payer très cher. Mais voilà, dès que je peux, je viens.
Tu m'en une fois.
Ouais. Exactement. Tu me dises comment tu te sens, parce qu'on va partir toujours de ça. Comment tu te sens?
Pour quelles raisons vous avez eu envie d'être professeur de maths ou...
Aider. Et le fait d'aider mes amis au lycée, ça m'a donné envie d'aider plus de monde.
Madame Noblet, professeure de mathématiques.
Avant, je voulais être psychologue ou psychiatre pour encore aider les gens. Et au final, à partir du lycée, j'ai vraiment eu envie d'être prof. et maths parce que j'aimais les maths.
Comment ça s'est passé le premier cours ?
J'étais stressée, très stressée. Au final, c'était les sixièmes, donc ça allait mieux. Ils étaient plus stressés que moi. À partir du moment où les cinquièmes m'ont vue, ils ont dit « Oh, elle est très jeune !» Là, je me suis sentie vraiment très jeune. Comme je suis jeune, je pense qu'ils vont avoir tendance à vouloir me tester. Il y en a qui ont peut-être découvert que c'était ma première année. Alors, elle dit, je suis nouvelle dans cet établissement, mais je préfère éviter qu'ils sachent que je suis nouvelle tout court.
Est-ce qu'on se dit, la veille du premier cours, est-ce qu'on se fait le film de comment ça va se passer, le premier cours ?
Si, si, oui, oui. Toute la nuit, on est là. Faut que je dise ça, faut que je dise ça. Et au final, on oublie des choses le jour J.
Et vous vous êtes mis comment dans la classe ?
Moi, j'aime être dans la salle et dans le fond, surtout. Comme ça, je vois tout le monde. Enfin, pour parler, au début, je me mets dans le tableau. Après, je suis souvent dans le fond. Une dernière, quand j'avais un tuteur, il m'avait dit de faire ça, parce qu'on a une meilleure vision de tout le monde. Et je suis d'accord là-dessus. On peut voir qui parle, qui suit le cours. C'est mieux que quand on est devant notre tableau.
Qu'est-ce que ça vous apporte, là, une semaine de la rentrée ? Vous vous sentez comment ?
Fatiguée. Mais sinon, je suis bien. Mais fatiguée quand même.
Quand vous dites que vous êtes bien, c'est que vous vous sentez satisfaite d'avoir fait ce choix-là ?
Oui. Ouais. Bah, on les accompagne dans leur réussite, les élèves. Puis j'aime bien le relationnel avec eux, où on peut rigoler tout en étant sérieux. Comme ça, j'arrive plus à le faire quand on est en petit groupe. Parce qu'avec 30 élèves, c'est compliqué.
Et la salle des profs, c'est pas impressionnant quand on arrive ?
Si. Si, si, on est tout jeune et on sait pas quoi dire. Et puis au final, bah, tout le monde est super accueillant. Tout le monde connaît déjà mon prénom alors que j'en connais aucun. Mais je sais leur matière, c'est déjà mieux que moi.
Et l'objectif, c'est quoi de cette année pour vous ?
D'avoir mon année, enfin ma titularisation, et voilà. Après, en mathématiques, il y a plein de régions d'académies où il n'y a pas besoin de beaucoup de points. C'est plutôt en sport, là, où ils sont obligés d'aller à Paris, en anglais aussi. Enfin, en fait, il y a plein d'académies où il ne faut pas beaucoup de points. L'académie de Nantes, il faut que 24 points pour être pris. Paris, il faut que 14 points. Académie de Bordeaux, il en faut 34. Enfin, donc ça va.
Vous connaissez toutes les régions ?
Bah là, c'est que je me renseigne pour l'année prochaine.
Après, c'est vraiment le mercato, parce que chaque année, ce qu'on appelle les barres, elles évoluent.
Gaëlle, professeure de mathématiques à la Coutancière.
En fonction de combien de profs demandent les postes, de combien de postes de disponibles. Donc en fait, on ne sait jamais d'une année sur l'autre. Il y a une académie qui peut être facile à avoir une année, et puis l'année d'après, elle est inatteignable, ou l'inverse.
Il y a la Bretagne et l'académie de Marseille, où on ne peut jamais les avoir, mais...
Moi, j'ai eu ex-Marseille, tu vois.
Oui, à une époque.
À une époque où c'était Aurélie Pâquerette. Il y a des grandes tendances, hein, bien sûr. Il y a des endroits qui sont plus demandés que d'autres, mais après, il y a toujours de l'inconnu, quoi.
Et c'est quoi votre région que vous aimeriez avoir l'année prochaine ?
Je suis avec quelqu'un et là, il est à Marseille en ce moment. Et comme il va être ingénieur, on cherche une grande ville. Donc, je sais pas encore, Nantes, Bordeaux. Peut-être Paris, mais j'ai vraiment pas envie d'être à Paris, donc...
Pourquoi ?
Bah, parce que si je demande Paris, je serai sûrement à Créteil et j'ai pas très envie. Peut-être avec plus d'expérience, mais sinon, non. Puis je sais que quand on est paxé, on a des enfants, etc., on a beaucoup plus de points. Donc, dans tous les cas, moi, j'en ai pas pour l'instant, donc... Vers où je suis ?
Après, je pense que vous le savez, mais ce qui attend les profs dans leurs jeunes années, c'est soit des zones urbaines difficiles, donc dans les grandes agglomérations, donc Paris, Lille, Marseille, en gros, soit d'être dans des académies, entre guillemets, plus tranquilles, enfin réputées comme ça, mais du coup d'être remplaçant, d'être, on appelle ça TZR, titulaire de zone de remplacement, donc d'être remplaçant pendant plusieurs années. C'est ce qui arrive de façon courante pendant 5 ans, 6 ans, 7 ans. Donc de ne pas avoir de poste fixe, mais d'être au mieux à l'année dans un établissement, et sinon 3 mois ici, 6 mois là.
Thank you. et les toilettes.
Ok.
Prof.
D'accord.
Donc il faut tout le temps les fermer à clé.
Sinon il y a des élèves. La clé,
ouais.
Sinon il y a des
élèves. Pas de rien.
Bon courage.
Merci.
C'est vraiment intense. Je pense que c'est crevant, c'est vraiment un moment où, pas forcément on se remet en question, mais en tout cas on se dit, ok, j'y suis quoi, j'y suis. Parce que quand bien même, durant les années précédentes, on avait été dans ce qu'on appelle des stages d'observation et de pratiques accompagnées, on n'était pas en responsabilité de la classe en fait. Et là vraiment, on est devant les élèves, ce sont entre guillemets nos élèves, et vraiment le fait qu'on doit diriger la classe, ça nous place dans une sacrée position, quoi. C'est vraiment quelque chose auquel on n'est pas habitué, même quand bien même, en fait, on a eu des années de stage précédentes, des périodes de stage. Mais voilà, il y avait tout le temps quelqu'un derrière, en fait. J'ai fait 2 années d'études pour ça, enfin 2 années, en tout cas dans le master pour ça. Et voilà, j'y suis enfin. Qu'est-ce que je vais produire? Est-ce que je suis à la hauteur? Est-ce que ce que je fais d'ailleurs avec mes élèves, ça les intéresse aussi? Et est-ce que, aussi et surtout, est-ce que ce que je fais, ça leur permet de progresser? En fait, à chaque fois que je crée une séquence, je me dis... Pourquoi est-ce que je le fais? Alors, bien sûr, c'est pour moi, parce que je pense en être capable, évidemment. Et le concours normalement montre que j'en suis normalement capable. Mais c'est aussi pour les élèves, en fait. C'est surtout pour les élèves qu'on le fait. Je veux que mes séquences, elles servent à les faire progresser. C'est ça, en fait, que je me dis à chaque fois. Avec eux. Donc, je suis Soyane. Enseignant de sciences économiques et sociales au lycée Edgar Quinet dans le 9e arrondissement de Paris.
Comment ça s'est passé la rentrée pour vous? Vous avez combien de classes?
Alors au niveau des classes, j'ai 7 classes à ma charge, à ma responsabilité. 5 classes, de 29 à 34 élèves par classe. Donc ça fait quasiment 230-240 élèves à ma charge. Donc c'est quand même assez impressionnant la quantité d'élèves qu'on a à connaître. Mais d'ailleurs, c'est aussi intéressant... J'ai attaché beaucoup d'importance à connaître le prénom de tous mes élèves le plus tôt possible. Et donc, je les connais tous. C'est important pour moi d'établir un lien, ne serait-ce qu'avec le prénom des élèves. Alors, on a les trombinoscopes qui sont à notre disposition sur l'application Pronote, qui est en gros l'application pour les enseignants, le site sur lequel tous les enseignants vont, notamment pour faire l'appel, par exemple, pour faire le cahier de texte, relire un peu parfois le trombinoscope. Je pense que ça aide.
Vous avez une très grande différence d'âge avec eux?
Ben, je pense pas, donc j'ai 24 ans, donc je suis voilà, un jeune enseignant, j'ai 24 ans. Et voilà, d'ailleurs, pas non plus une très grande différence de taille physique avec eux, puisqu'en fait, il y en a beaucoup qui me dépassent d'au moins 2-3 têtes. Et ça aussi, c'est assez marrant, en début d'année, non mais c'est lui le prof, c'est lui, c'est vraiment notre enseignant, parce que c'est vrai que je parais jeune, et je suis non plus voilà, pas très grand, donc ils se disent, mais c'est vraiment lui comme notre enseignant, ok. Et après, ça se passe très bien.
Bonjour, vous allez bien?
Bonjour, je m'appelle David, j'ai 42 ans, je suis enseignant depuis 3 ans. Un parcours assez classique d'enseignant, lycée, prépa, j'étais à l'école normale sup, on prépare l'agrégation, j'ai passé l'agrégation, j'ai enseigné. Enseigner, c'est pas vraiment quelque chose qui s'apprend, en tout cas c'est pas quelque chose qui va s'apprendre en tant qu'élève où on est assis et où un formateur va nous expliquer la chose. J'ai un avis assez ambivalent sur la formation qu'on fait. Ça s'appelle l'INSPE maintenant. Ça avait un autre nom quand j'étais il y a 17 ans. Je pense que ce que j'ai eu est très mauvais, que c'est beaucoup une perte de temps. Mais pour y avoir réfléchi, je ne pense pas qu'on puisse faire beaucoup mieux. Les bons formateurs veulent nous montrer, et ils ont raison, veulent nous montrer par l'exemple comment on enseigne bien. Il y a une bonne évolution, je trouve, dans ce sens-là, dans ce qui se passe au collège et au lycée, c'est l'apprentissage doit venir de l'élève. Le prof au tableau qui écrit un cours et qui dit « vous l'écrivez, vous l'apprenez par cœur », ça ne marche pas. On apprend en faisant. Moi, j'y crois beaucoup, surtout en mathématiques. Il faut faire des maths pour savoir faire des maths, quoi. Donc l'idée, c'est le savoir doit venir de l'élève. Et donc, il nous montrait ça par l'exemple. Donc, on avait des journées, par exemple, c'est « Tiens, comment tirer les vertus pédagogiques de tel et tel et tel exercice ?» Donc, on nous donnait 4 exercices, il nous mettait en petits groupes. On réfléchit ensemble sur les qualités, les défauts de tel et tel exercice. ça nous prend 20 minutes. En fait, un prof, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que c'est quelqu'un qui a bac plus 5. C'est quelqu'un qui a réussi un concours, c'est quelqu'un qui a démontré une vraie capacité à avoir un esprit analytique, à réfléchir, à communiquer. Les concours, ils ne sont pas si faciles. C'est des gens qui ont un certain niveau intellectuel. Et donc, ce travail, on le fait en 20 minutes. Mais le formateur, il a prévu 2 heures. Donc, en fait, qu'est-ce qu'on fait à l'INSPE ? On fait la tâche qui nous est demandée pendant 20 minutes, puis on papote. On attend, on va prendre un café. Après, il y a une pause. La pause dure toujours 30 minutes. À l'INSPE, où on était, il n'y avait qu'une machine à café. Il y avait 20 minutes de queue pour la machine à café. On fait les 20 minutes de queue, ça fait partie du truc. On va débriefer. Donc, chaque groupe va dire ce qu'il a à dire sur les 4 exercices. Tout le monde dit un peu la même chose parce qu'on avait les mêmes analyses qui étaient les bonnes. Hein. Enfin, il n'y a pas. Puis là, on s'attend peut-être à ce que le formateur fasse conclure, chapeaute un peu tout ça. Et puis, en fait, non, parce que l'important, c'était que nous, on dise les choses. Donc, on a passé 4 heures de notre journée pour juste discuter de la qualité pédagogique de 4 exercices qu'on a fait en 20 minutes et qui était bien. Mais ça s'arrête là. À l'INSPE, on arrive et on discute entre nous. Ah, toi, comment t'as fait ? Comment t'écris ? En fait, même ça, en mathématiques, la formulation d'une définition, la formulation d'un théorème, tout ça, ça pose plein de questions. N'importe quel prof de maths peut parler pendant 2 heures sur quelle est la meilleure façon pour des élèves de rédiger la définition d'un nombre entier ou la rédaction du théorème de Pythagore. Et il y a 100 façons différentes, chacune avec leurs avantages et leurs inconvénients. Ça a l'air d'être un truc super formel, mais chaque virgule compte en quelque sorte. Et donc finalement, tous ces nouveaux profs vont tous dans leur coin, travailler jusqu'à 1h du matin, à faire des cours, à réfléchir à comment, où est-ce que à quel moment je mets cette définition, est-ce que je la mets avant cette propriété, etc. Et dépensent toute leur énergie là-dedans, et non plus l'énergie pour s'occuper de ce qui est vraiment important. C'est beaucoup, beaucoup de travail, en fait, au début. Là, j'ai entendu encore ce matin que la ministre des missionnaires veut encore changer les programmes. C'est assez amusant, toujours, cette histoire de changement de programme, parce qu'ils ont l'air de croire que ça va régler quoi que ce soit. Le niveau baisse, ça c'est ce qu'on observe sur les comparaisons internationales, etc. Et c'est comme si c'était parce qu'on n'apprenait pas les bonnes choses. Alors, en plus, dans ma matière, bon, en maths, on peut passer de son temps à changer, à se dire « Ah, ça vaut mieux l'apprendre telle année, puis ça telle année, l'année d'avant, l'année d'après, on bouge les blocs. » Mais à la fin, ce qu'on a appris en sortant de terminale, par rapport à quand on est rentré en sixième, c'est toujours un peu la même chose par rapport à il y a 50 ans. Alors, il y a des évolutions qui sont bonnes, il y a plus de probas, je pense que c'est une bonne chose, il y a plus d'algorithmique, et c'est bien parce que la programmation, le numérique prend de plus en plus de place dans nos vies. Donc, il y a des évolutions lentes, globales, qui sont pertinentes. Mais revouloir changer les choses tous les 4 ans, c'est vraiment vouloir mettre un voile sur les vrais problèmes de l'éducation nationale, parce qu'il y a un tel manque de moyens qu'on a l'impression de rentrer dans une maison où les fondations sont bouffées par les termites, l'électricité ne marche pas quand on l'allume, il y a des fuites d'eau partout. Il faut tout revoir. Et là, on a un ministre qui arrive et qui dit « Ah, cette maison, ben, on va déplacer le canapé, on va le mettre là, on va repeindre le mur au fond de la cuisine, puis c'est bon, elle aura l'air neuve. » Et les fondations sont toujours en train de s'écrouler. Donc vraiment, c'est un cache-misère, la question des programmes. Mais ça fait que les manuels, pour revenir à ce que je disais, sont souvent obsolètes, parce qu'on n'a pas les moyens d'en acheter. Quand on a les moyens d'en acheter tout court, parce que j'ai déjà fait cours dans des classes de 35, où il n'y avait que 25 manuels pour la classe, et 10 élèves qui n'avaient même pas de manuels, donc on ne pouvait pas donner de devoirs, où c'était toujours la guerre et tout.
Non, je
ne suis pas de sixième.
Ah. Prof de maths, mais je ne suis pas de sixième.
Maths,
c'est qui
Noblet.
Ah, c'est la stagiaire.
C'est
la nouvelle. Oh, bah, bon courage pour elle.
C'est la stagiaire. Elle a fait une seule
pédère. Oui, c'est ça. C'est sa première année de stage. Ouais.
Très bien de prendre un temps avec les professeurs pour
le. Je pensais aller briefer le prof principal.
Ouais, c'est très bon. Ils sont tous dans la salle.
Moi, je vais aller après. Mais c'est Bruno, je crois.
Bientôt.
Ouais. Ok. C'est très bien.
Moi, c'est très bien. Alors là, c'est parfait.
Que ce soit un homme, c'est bien.
Oui, et puis, enfin, tu verras, il est très cadron, quoi. Je pense que ça peut bien.
On a 800 000 enseignants en France. On a 80-85% des collègues qui sont fonctionnaires titulaires.
Laurent Kaufmann, personnel de direction à l'éducation nationale.
Comme on n'arrive plus à recruter par voie de concours de suffisamment d'enseignants, on a aussi un volant de contractuel de plus en plus important. Et dans les zones les plus difficiles ou les plus éloignées, on peine à avoir des collègues titulaires et du coup, eh ben, on a de plus en plus de contractuels. Alors l'enseignant, il est recruté sur concours.
dans la grande majorité. Concours qui a bougé sur les 20 dernières années, qui a très longtemps été à Bac plus 3, puis à l'époque de Sarkozy, on est passé à cette idée de masterisation, donc on a recruté les enseignants à Bac plus 5, avec une revalorisation salariale qui existe, qui n'est pas forcément suffisante, mais qui existe. Et puis, bah, de fait, le vivier s'est tari, on va revenir au concours à Bac plus 3. Donc un enseignant qui est recruté sur un concours, il passe alors un concours avec une exigence disciplinaire forte, totalement inadapté au métier qu'il va exercer après, mais à aucun moment, en tout cas dans le concours, très peu de choses sont posées sur la psychologie de l'adolescent, la vie dans un établissement scolaire, comment est-ce que ça fonctionne, qu'est-ce que c'est qu'un établissement scolaire, enfin toutes ces questions-là vont être plus ou moins abordées. Il faut savoir que c'est des métiers où il ne peut pas y avoir de formation initiale satisfaisante, parce qu'on voudrait sortir d'une formation initiale avec tous les outils pour faire face à son quotidien. Or, c'est un métier difficile, c'est un métier d'expertise, et on apprend aussi beaucoup sur de l'expérience.
Je m'appelle Céline Kael, je suis enseignante de sciences économiques et sociales dans un lycée qui s'appelle Jacques Feder à Épinay-sur-Seine. Et puis, je suis à mi-temps dans ce lycée, et l'autre mi-temps, je suis formatrice à l'INSPE de Créteil. L'INSPE qui est le centre de formation initiale des jeunes enseignants, à la fois qui préparent le concours, mais aussi qui l'ont eu et qui font leur première année en tant qu'enseignant. Aujourd'hui, de nombreux étudiants sont dans ce qu'on appelle des master MEF, donc c'est un master des métiers de l'enseignement et de l'éducation. Pendant ce master, donc, qui est fait après une L3, ils préparent le CAPES principalement. Et ils préparent donc le CAPES à travers des matières disciplinaires. Quand on est en SES, on a des cours très intenses de sociaux, d'éco, de sciences politiques. On a des contenus très exigeants sur la discipline. Et ensuite, on passe le CAPES dans sa discipline. C'est des concours très difficiles. En fait, il y a une vraie sélection qui est faite, quoi. Selon le ministère de l'Éducation nationale, il y a 20 832 candidats inscrits au concours externe du CAPES. Il y a 11 000 candidats qui se présentent aux épreuves d'admissibilité, qui sont les écrits.
En 2023
11 269. Et sur tous ces candidats présents aux épreuves d'admissibilité, 4 337 sont admis. Ça, c'est pour l'externe du public. Il y a moins de candidats. Mais parfois, les jurys au CAPES, même s'ils avaient 120 places, par exemple, n'ont pris que 100 personnes en estimant que les 20 prochains n'avaient pas le niveau. Donc c'est pour ça que tous les ans, on dit qu'il manque des enseignants. Pendant le Master MEF, il y a aussi des cours qui réunissent tous les étudiants de toutes les disciplines. Ces cours-là, on y apprend le fonctionnement de l'éducation nationale, ce que c'est la pédagogie, la lutte contre le harcèlement, l'égalité filles-garçons, qu'est-ce que ça veut dire, toutes ces thématiques qui sont transversales à l'éducation nationale. Ils ont aussi, pendant cette formation, ce que moi je fais principalement, c'est des cours de pédagogie et de didactique. Donc c'est censé être une formation très complète pour devenir enseignant. Depuis 3-4 ans, quand on a un master MEF, quand on a le CAPES, on rentre à plein temps enseignant. Soyane, il est enseignant à 18h dans un établissement et il a 9 journées de formation pendant cette année-là. Au bout d'un an, si ça se passe bien, ils deviennent titulaires de l'éducation nationale.
Et au bout de 5 ans,
ils sont profs.
Mais après, il y a tous les enseignants qui n'ont pas fait de Master MEF. Donc comme ils n'ont pas de Master MEF, ils sont à mi-temps en établissement et à mi-temps en formation. Et ils ont aussi un tuteur sur le terrain. Alors pour les Master MEF, il y a des stages où ils sont dans la classe d'un enseignant ou d'une enseignante. Et ils sont censés, les 2 premières semaines, observer. Et puis, à la fin de l'observation, normalement, les enseignants sont censés leur laisser 1 heure, 2 heures, 3 heures de classe où ils font cours. Ça, c'est la première année. Et la deuxième année, il y a encore 2 possibilités différentes. La première possibilité, c'est de nouveau d'être observateur 2 jours par semaine. Donc, ils sont là, dans une classe d'un enseignant, toute l'année, en parallèle de leur préparation du CAPES. C'est une année très très intense pour eux. Et l'autre possibilité, c'est de devenir alternant pendant cette année de M2. C'est-à-dire là, d'être vraiment enseignant avec des classes en responsabilité 6 heures par semaine. Je suis désolée, c'est un peu... Même nous, hein, parfois, c'est un peu complexe. Mais voilà, c'est ce qu'on appelle des étudiants contractuels alternants, ECA. Voilà.
Est-ce que eux-mêmes comprennent le parcours qu'ils doivent faire pour devenir professeurs?
C'est une bonne question. On passe beaucoup de temps à leur expliquer ça, en début de parcours. Donc, je pense qu'au bout d'un moment, en effet, ils comprennent très bien.
Je me présente, hein, monsieur Guy... Voilà. Monsieur Guillotot. Et je suis votre professeur des SVT.
Là, là.
Oh non. Bonjour, monsieur.
Allez, bonjour, allez. Oh, c'est pas vrai, ça. Eh, vous êtes avec moi, vous, les filles, là? Vous êtes avec moi, là? Non? C'est bien, alors. Ah, mais ils sont tous là. Bon. Alors, vous écoutez bien attentivement mon prénom, vous regardez bien ma main gauche. Si je mets ma main là, c'est pas là. Oui. Vous voyez ça? Noam, Lucie, Maxime, Sarah, Giuliano, Adèle. Arthur, Léa, Nils, Lia, Yanis, Isilde, Timéo.
Les obligations réglementaires de service, c'est les heures de cours en face à face élèves, mais c'est majoritairement 18 heures pour les collègues certifiés. Mais en fait, il y a la préparation des cours, la correction des copies, les rencontres avec les parents, la formation continue, qui normalement est sur le temps de travail, et dans plein de métiers, et notamment dans la fonction publique, la formation statutaire, elle est sur le temps de travail. Dans l'éducation nationale, les enseignants sont parmi les fonctionnaires ceux qui ont le moins de temps de formation sur le temps de travail. C'était déjà les chiffres avant les décisions de Gabriel Attal. Et aujourd'hui, c'est de dire 30% des formations sur le face-à-face élève, donc 70% supprimées. Horizon la rentrée prochaine, plus de formation sur le temps face à face élève. Et avec l'hybridation, comme on a appris voilà, avec le Covid, on propose des formations sur magistère, qui sont des dispositifs possibles, hein. Mais on ne peut pas appeler ça de la formation. Et quand on regarde au niveau européen les systèmes éducatifs qui ont d'autres résultats, même si faut avoir en tête que la crise de recrutement dans les systèmes éducatifs, elle touche tous les pays européens. Même l'Allemagne, où les salaires sont plus importants, ils peinent à trouver des enseignants. Donc c'est peut-être des choses très profondes. C'était des métiers protecteurs, ils le sont encore parce qu'on est fonctionnaire, mais en France, vous démarriez il y a 30 ans, vous gagnez 2,3 fois le SMIC en débutant. Aujourd'hui, c'est 1,6 fois le SMIC. Alors que toutes les autres dépenses induites ont augmenté. Et il y a eu des efforts, hein, on peut pas ne pas le dire. Il y a eu des efforts sur les débutants, notamment. Mais l'éducation reste le premier budget de l'État. Le gros du budget de l'État, du budget de l'éducation nationale, c'est les salaires. Il y a un sujet sur les salaires, notamment pour les débutants et les jeunes collègues. Mais aujourd'hui, travailler avec un salaire de 2000 euros en Ile-de-France, on peut pas se loger. Enfin, en tout cas, à Paris, on ne peut pas se loger avec un salaire de 2000 euros. Se loger, se nourrir, on peut pas. C'est très difficile.
Bonjour à toutes et à tous. Vous avez passé une bonne semaine? Ouais. Cette rentrée s'est bien passée? Vous prenez vos repères, vos remarques? Ça y est? Vous avez mis votre cerveau en route? Ah, tiens, c'est bizarre, là. Le cerveau n'est pas encore en route? Non? Eh bien, il va falloir s'y mettre parce que on va attaquer tout de suite. T'as pas besoin de te stresser, ça sert à rien le stress. Donc, vous allez reprendre les documents que je vous ai distribués la semaine dernière. Vous allez les sortir de votre classeur. Une feuille blanche, grand carreau, un crayon. et vous allez ranger vos classeurs, vous allez les poser devant vous là, que je vérifie en fait votre page de garde et le contenu du classeur. Si la page de garde n'est pas faite correctement, vous aurez à la refaire.
Vous êtes enseignant à Paris ?
À Paris, c'est ça, oui. Dans le 9e arrondissement de Paris.
Et vous venez de Paris, vous ?
Pas du tout. Pas du tout. Je viens d'une commune de 400 habitants du nord-est de la France, Xerma-Ménil. Donc en fait, la région parisienne, je connais pas du tout, quoi. C'est vrai que j'ai connu avec mes parents, en fait. Mes parents sont issus de l'immigration cambodgienne, en fait. Et donc, on avait pour habitude, quand on était jeune, enfin avec mes parents, de venir une fois par an à Paris, dans le 13e arrondissement, quartier chinois, pour aller manger notre soupe et repartir instantanément. Mais donc, je connaissais que le 13e arrondissement, en fait, et que le quartier chinois de personnes qui me ressemblaient, on va dire. Mais pas autre chose que ça, quoi. Donc, je connaissais pas Paris et tout ce qu'elle peut proposer, quoi. Toute cette ville, je la connaissais pas, en fait.
Donc, vous avez grandi à la campagne ?
C'est ça.
Avec le rêve de devenir professeur ?
Toujours cette ambition pour moi d'être enseignant. Initialement, je voulais pas être enseignant de SES, mais j'avais toujours un attachement à l'anglais. J'aimais beaucoup l'anglais et je voulais être prof d'anglais quand j'étais plus jeune. Mais la SES, c'est vraiment venu un attachement à cette discipline parce que il y a des moments dans ma vie, où, notamment familiaux, où l'argent, entre guillemets, était un problème. Et moi, dans ma petite tête de jeune personne, d'adolescent, j'essaie de comprendre en fait comment ça se fait que je manquais d'argent, que ma famille manquait d'argent, qu'on n'avait pas forcément accès à tout ce qu'on voulait. Et donc, lorsque j'ai découvert les SES en seconde, eh bien, mon enseignant expliquait un peu certaines situations. Il y avait une sorte de résonance entre mon vécu familial et les enseignements scientifiques que j'avais dans la classe de seconde. Et je me suis dit, mais c'est marrant, en fait, il m'explique ma vie, quoi. Il est en train de m'expliquer ce qui m'arrive. Et là... C'est pour ça, cette discipline, elle explique tellement de choses, en fait. Les SES, on explique tellement de choses que c'est forcément cette matière vers laquelle je suis allé, quoi.
Qu'est-ce qui vous expliquait cet enseignant ?
La pauvreté, par exemple, la pauvreté, les crises économiques, les crises financières. Et voilà, en fait, mes parents, je le voyais avec mes parents, et mes parents me le disaient, en fait. Pas avec ces termes-là, pas avec ce lexique économique, mais ils me parlaient de ça, en fait. Le fait qu'il n'y a plus de clients, le fait qu'il n'y a personne aujourd'hui, c'est difficile.
Ils vivaient quoi, vos parents ?
Ils sont encore depuis 25 ans restaurateurs. Ils tiennent un restaurant à Lunéville.
T'as des ordinateurs au collège. Tu t'organises. C'est pas juste pour t'embêter, c'est pour te faire travailler l'outil informatique. En troisième, on te demande de savoir travailler l'outil informatique. Okay. Si tu as des problèmes d'imprimante à la maison, tu viens me voir, tu viens avec ta clé et on imprime ici. Il n'y a aucun souci. D'accord ? Par contre, là, c'est pas bon. Ça, c'est la terre dans laquelle on plante les tomates. Pas la planète. Eh oui, planète est majuscule. Vous allez monter à l'espace. À refaire. Et...
J'étais un très très mauvais élève. Très mauvais élève, moi j'étais le cancre de la classe, près du radiateur, et puis j'écoutais quand je voulais, et je travaillais pas, et je faisais pas mon travail, ou alors je le bâclais, j'avais des résultats catastrophiques, j'ai redoublé ma cinquième, ma troisième, je peux pas le dire à mes sixièmes, pas non plus tirer une balle dans le pied. Hein. Le professeur, c'est un bon élève, il a toujours bien travaillé, il a toujours bien réussi, mais non, c'est pas vrai, c'est pas ça la réalité. Certains, oui, mais pas tous. Ben, quand j'étais au lycée, j'avais une professeure de bio qui m'a donné envie d'être enseignant. J'adorais ce qu'elle a fait au lycée, ce qu'on faisait au lycée. Et j'avais dans l'idée de devenir enseignant. Et puis c'est plus tard, en fin de terminale, j'ai eu un professeur de physique qui me dit ah, « Mais pourtant, avec le niveau que tu as, tu devrais faire des études de... » plus poussé, la recherche, c'est bien. Donc, je suis parti d'abord sur la recherche. Donc, j'ai eu mon doctorat, j'ai fait 4 ans de recherche. Et puis, quand je suis rentré, j'ai fait ça à l'étranger. Et quand je suis rentré en France, j'avais pas de boulot. Donc, j'ai fait des demandes dans les sociétés de biotechnologie dans la région nantaise, mais C'est la concurrence était très très rude. Donc j'ai fait autre chose, j'ai fait des petits boulots à côté, et puis parce qu'il fallait bien vivre. Et c'est lors d'un entretien à Pôle emploi. Donc, j'avais déjà enseigné 2 ans avant mon retour en France. Et il dit mais vous avez été enseignant pendant 2 ans. J'ai dit oui. Ça vous intéresserait d'être enseignant? Ben, j'ai dit oui, mais pour moi j'avais pas le CAPES. Donc c'était au début de la contractualisation des professeurs. Ah, j'ai dit oui. Donc, c'était en février, en septembre j'avais du travail. Mais le problème c'est que vous êtes pas du tout formé quoi.
Mais donc, vous n'avez pas le CAPES, mais vous êtes devenu...
Ah si, moi, j'ai été 8 ans contractuel, sans le CAPES. Vous êtes affecté dans un établissement comme professeur des SVT, sans avoir enseigné... Enfin, moi, j'avais déjà enseigné 2 ans, mais j'ai eu plein de cas de professeurs qui sont arrivés le premier jour. Bah, ouais. Ils n'ont aucune expérience. Ils ont fait, comme eux, imaginer un cours, c'est-à-dire que comme quand ils étaient élèves. Or, maintenant, on est en compétences, on n'est plus du tout en système de notes, etc. C'est complètement changé. Et moi, j'ai vu des professeurs, mais des chefs d'établissement s'arracher les cheveux, parce que j'ai encore la tête, en tête l'image d'un professeur qui était professeur de maths, tout simplement parce qu'il y a 20 ans avant, il avait passé une licence de maths. Mais l'année d'avant, il était guide de haute montagne. Mais comme il a déménagé, il est venu dans la région, bah, il s'est à la montagne à Nantes, pas beaucoup, et il était prof de maths. Et ça a été les élèves, ils n'ont pas fait de maths de l'année, quoi. Mais ça ne s'explique pas. Pour être professeur, il faut aimer son métier. Et puis c'est dur, hein. Faut les tenir, les 28, 29 élèves. Il y a beaucoup de disciplines, il y a beaucoup de trucs à utiliser pour maintenir sa classe dans l'écoute, dans l'apprentissage.
C'est quoi votre truc à vous ?
Oh oui, il y en a plein. Ben, déjà, le plan de salle. Mm. Hein. Et puis, la première journée, moi, je vais leur dire, il y a 3 choses sur lesquelles je ne vais pas déroger. C'est le respect, la tolérance et la confiance. Et vous me respectez, je vous respecte. Vous ne me respectez pas, je ne vous respecte pas. Ça ne me pose aucun problème. C'est donnant-donnant. La tolérance, bah, je donne un exercice, mais bon, vous avez une raison valable. Vous avez été renversé par une voiture la veille. Je peux comprendre que vous ne fassiez pas votre travail. Et la confiance n'exclut pas le contrôle. Si je m'aperçois que tu as abusé de ma confiance, ça va être très difficile de la récupérer. Avec les années, il y a une chose sur laquelle que j'ai bien retenu, c'est qu'il faut être juste. Vous pouvez être très exigeant avec un élève, à partir du moment où vous êtes juste. C'est-à-dire que vous donnez les consignes, vous expliquez comment vous fonctionnez. Et après, ils vont vous tester. C'est obligatoire. Ils vont vous tester. Ils vont essayer de vous trouver une excuse bidon. Ah bah oui, mais non, vous ne l'avez pas dit. Si, je l'ai dit. Et moi, comme je marque tout sur Pronote, je dis, ah ben vous ne l'avez pas dit. Je dis, pardon. Ah bah attends, on va regarder. Et je projette devant tout le monde. Tu vois bien, rien, c'est écrit là. Quand vous avez 280 élèves, ça va. Vous êtes obligé. Moi, je suis obligé. Hein. Vous pouvez pas vous rappeler de tout. C'est impossible. D'une semaine sur l'autre, vous avez vu 280 élèves. Qu'est-ce que j'ai dit à cet élève-là la semaine dernière? Si vous ne notez pas quelque part, moi, j'ai 53 ans. J'ai plus 20 ans. J'ai besoin d'avoir des appuis, des outils. Et c'est pour ça, ce matin, les réunions qu'on a fait ce matin, sur tous les outils qu'on nous met à disposition sur Pronote, mais les retards, les oublis, mais... C'est un jeu hein, pour eux, pour les élèves. Ah ouais, mais non, oui, mais non. T'as un motif valable ? Non. Tu vas à la vie scolaire.
Tony ? Bonsoir, à demain, bonne soirée. Comment s'est passée la première journée ?
Très bien, j'ai
apprécié
le professeur.
Ok, à demain. Ça va ? Vous êtes content de votre première journée ? Oui ? Oui, Tony ? Ok, on se retrouve demain. Comment s'est passée cette première journée ?
Très bien.
Très bien ? Ok. Quoi d'autre ? Quelles impressions sur cette première journée ?
C'était bien, une rentrée.
Ok. À demain. Et vous, qu'est-ce que vous avez
en fait, être à la hauteur, c'est se poser des questions. Et c'est aussi remettre en question...
Céline Kael,
Enfin, ça, c'est peut-être un avis un peu personnel.
Professeure de SES et formatrice INSPE de Créteil.
Ce discours de « c'est de leur faute, les élèves, ils veulent pas ». Et en fait, il ne faut pas oublier que les élèves, ils évoluent dans un contexte social. Parfois, c'est pas eux qui veulent pas, parfois ils peuvent pas. Et là, peut-être que être à la hauteur, c'est se dire « ok, qu'est-ce qu'on peut faire ? Qu'est-ce que je peux faire moi en tant que prof, mais aussi collectivement, à l'échelle de mon équipe, avec les CPE, avec les autres enseignants ?» Pour donner envie.
Au revoir, monsieur.
C'est un métier où, ça dépend comment on le fait vivre, mais on se dit que voilà, on est là pour apprendre aux élèves à penser et pas que apprendre des notions par cœur, quoi. Et en fait, apprendre à penser crée des citoyens qui sont capables de comprendre le monde parce qu'ils ont appris à penser, à réfléchir ensemble. Parfois, à être capable de critiquer la parole même de l'autorité. Et ça, c'est un vrai apprentissage en tant que prof, parce qu'au début, on ne veut pas perdre la face, et c'est bien normal. Et de toute façon, c'est important de faire autorité, de donner un cadre sécurisant aux élèves. Ils en ont besoin. Les élèves, il faut leur donner cette place pour questionner les règles et pourquoi elles existent. À mon avis, c'est le défi dans un établissement, que les élèves soient au centre. Et c'est aussi ça que la formation peut ou doit permettre, c'est comment faire pour que l'élève soit au centre de la préoccupation de l'établissement. Et attention, parce que souvent quand on dit ça, on va avoir l'impression d'un ce qu'on appelle le pédagogisme laxiste, où les élèves vont être rois, mais c'est pas ça. Ça n'empêche pas d'avoir un cadre, ça n'empêche pas d'avoir des règles qui peuvent être fixes et strictes, parce qu'elles sont importantes. Mais mettre l'élève au cœur, c'est mettre en place des règles qui ont du sens pour lui, qui permettent à l'élève de progresser.
Tu manges à quelle heure ? Hein ? Tu manges à quelle heure ?
Je sais pas, comme tu veux.
Moi, c'est pour ça que j'ai voulu être enseignante au départ.
Avant, en fait.
Oui, c'est l'histoire peut-être un peu classique d'un prof de SES qui change notre vie parce qu'on a compris plein de choses du monde avec lui et on se dit, mais moi aussi, je vais faire ça avec les élèves. Bon, après, on rencontre la réalité et puis on se rend compte que finalement, ce que nous, on trouvait super intéressant à 15 ans, pas forcément tous les élèves devant nous le trouvent super intéressant, donc il faut trouver des manières de le rendre intéressant, de susciter l'intérêt, de susciter le débat entre eux, la confrontation d'idées qui leur donne envie d'apprendre, de rapprocher les questions de leur réalité. Parce qu'en fait, aux élèves, on leur pose 1000 questions par jour qui ne sont jamais posées de leur vie. Donc c'est comment on fait pour rapprocher toutes ces questions qu'on leur pose de leur réalité à eux, quoi, pour que ça les intéresse.
Quoi ?
Mais...
Il y avait la correction juste à côté.
Non, moi je vois les
papiers. C'est ridicule. Bon, dans tous les cas, j'ai fait ce pas.
Ouais, du coup, on a laissé mon sac.
Attends, on mange quoi?
Bien que c'était le métier que j'avais toujours eu envie de faire depuis que j'étais jeune, j'ai eu envie de découvrir d'autres choses avant de me consacrer vraiment complètement à l'enseignement. Donc j'ai démissionné, ça c'était il y a à peu près 17-18 ans. J'ai fait plus d'études, je me suis spécialisé dans d'autres domaines, j'ai travaillé dans toutes sortes de choses, j'ai fait de l'économie, j'ai fait de la finance, j'ai travaillé dans l'enseignement. Dans mon dernier travail, par exemple, je travaillais à la Bourse de Paris, où je gérais les risques de l'entreprise. Dès le début, je sentais qu'il y avait quelque chose qui était un peu en décalage avec ce que j'aimais faire et ce que j'aimais être. Je me rappelle du premier jour à la Défense où je sors du RER avec mon attaché case là en costume. Et il y a la queue pour prendre l'escalator pour sortir du RER. Et j'étais entouré de centaines de personnes avec leur attaché case et leur costume pour aller travailler dans une tour à la Défense. Et je me suis un peu dit, mais qu'est-ce que je fais là ? Alors encore une fois, c'était un super métier sur ce que j'y ai fait. J'ai pris du plaisir à faire ce métier. Mais après 2 ans, je suis arrivé à la conclusion que ça me convenait quand même pas que m'impliquer pour que la finalité soit maximiser les profits et les dividendes aux actionnaires, ça cochait pas une case chez moi, quoi. Il y avait vraiment ce truc de... J'ai eu la chance d'avoir cette trajectoire, en fait, très élitiste, sans me rendre compte, parce que j'avais juste l'impression d'essayer de faire de mon mieux. J'étais dans un bon lycée parisien, prépa, normal sup. Encore une fois, après, on est enseignant, ben on n'est qu'avec des gens qui ont fait des études, qui ont appris à réfléchir, qui ont appris à étudier. Et là, je me retrouve dans le privé et je réalise que le cadre sup qui a avec ses 150 000 euros par an, bah, il percute moins vite que n'importe quel prof de maths que j'ai croisé dans ma carrière. Et... Mais c'est aussi ce qui m'a fait du bien. C'est-à-dire que le jour où je suis rentré dans une salle des profs et où j'ai commencé à discuter avec des collègues, bah, le niveau des discussions, la qualité des discussions, c'est aussi quelque chose qui m'a fait un peu souffler de soulagement, en mode, vraiment, je suis à ma place. Et j'ai quitté l'entreprise en janvier 2019. Je me suis dit, bon, bah, je m'inscris au concours. J'avais l'agrégation de mathématiques et j'ai démissionné de l'agrégation. Ça reste des concours de recrutement. Quand on démissionne, on perd son concours. L'agrégation, c'est quand même un concours qui se prépare. Là, je m'étais dit, j'y vais un peu les mains dans les poches. Donc, je m'étais juste inscrit au CAPES. Et donc, j'y suis allé et je suis certifié.
Vous avez quel statut depuis ?
Alors, moi, j'ai le statut, ça s'appelle TZR. Ça veut dire titulaire en zone de remplacement. Ça veut dire que je suis remplaçant. En fait, vous savez, il y a un système de points qui est particulièrement complexe et je pense délibérément complexe pour que personne n'y comprenne rien. Un jour, j'ai chargé la documentation, elle fait 50 pages et je pense que personne n'est jamais allé au bout. Donc, titulaire en zone de remplacement, à une époque, ce qui se passait, c'est qu'il y avait des contingents de profs dans tous les établissements. Et si, par exemple, un prof venait à tomber malade, ou enfin, pas un jour ou deux jours, mais peut-être une semaine, deux semaines, ou ce genre de choses, on appelait un remplaçant pour qu'il puisse venir remplacer le professeur. Logique. Aujourd'hui, les remplacements de profs malades, ça n'existe plus. Encore une fois, tout ça, c'est des questions de moyens qui font qu'on n'a pas toujours de manuel, on n'a pas toujours de papier, on n'a pas toujours de salle pour faire cours. Enfin, c'est assez dramatique. Et on n'a pas toujours de profs, tout simplement. Donc, les TZR comme moi sont quasiment systématiquement utilisés pour remplir des postes à l'année. Et en fait, on sert un peu de bouche-trou parce qu'un prof, par exemple, un certifié, c'est 18 heures. Et imaginons qu'un établissement ait besoin au total de 40 heures de prof de maths, disons. Il a ses deux profs attitrés qui font leurs 36 heures de cours et il reste 4 heures à boucher. Et c'est là qu'un TZR, c'est pratique parce qu'il peut venir faire les 4 heures ici. Mais résultat, les TZR sont assez systématiquement répartis entre plusieurs établissements. L'année dernière, j'étais sur 3 établissements qui encore avaient la chance de ne pas être trop loin les uns des autres. L'année précédente, j'étais entre Porte Dorée et Gare du Nord, donc ça devient quand même déjà bien plus pénible. Et encore une fois, je ne me plains pas parce que je suis dans la...
C'est la même semaine.
Ah oui, mais même dans la même journée. Mais je vous dis, je ne me plains pas parce que j'ai la chance d'être à Paris. Il y a des gens, il y a des TZR dans des académies qui doivent faire 100 km de voiture entre un de leurs sites et l'autre. C'est tout bête, hein, mais les créneaux horaires des établissements ne sont pas toujours les mêmes. Il y en a, les cours commencent à 9h10 et les autres à 9h05, et puis la récré dure 15 minutes ici, dure 10 minutes là, donc il faut s'adapter à ça. C'est des réseaux informatiques différents, des jeux de clés différents, surtout des équipes pédagogiques différentes. En fait, c'est très difficile de s'intégrer. Quand on est dans un établissement, on travaille avec ses collègues année après année, on construit des liens, on construit des programmes, des projets. Là, le TZR, il vient pour un an, l'année d'après, il sera nommé ailleurs, et puis il est là que la moitié de la semaine. Puis en fait, il ne peut même pas trop rester parce qu'il doit vite prendre ses affaires pour aller dans son autre établissement. Donc, on ne peut pas vraiment s'intégrer dans l'équipe pédagogique. Ben, moi, je crois que j'ai eu, depuis que je suis TZR, ça fait 3 ans, j'ai toujours eu cours vendredi de 16 à 17 parce que c'est l'heure que personne ne veut. Alors, pour faire des maths, c'est super, hein, les gamins, ils sont super concentrés. La rentrée, ça va être le 1er septembre. Je ne sais pas encore où je serai. C'est toujours un peu la loterie. Encore une fois, c'est assez obscur, l'affectation des TZR. Je ne peux pas préparer mes cours. Je ne sais pas quel niveau j'aurai. Et rajouter là-dessus une énorme frustration, c'est l'indigence du rectorat parce que le rectorat doit s'occuper de ça. Et les rectorats sont en vacances. Le moment où on a le plus besoin d'eux, c'est pour préparer la rentrée. C'est justement pour dire qui va travailler où. En août, les rectorats sont en vacances.
Tu veux faire une petite dédicace ?
Tu veux faire une dédicace ?
Bah ouais.
Oh, attention.
On dit quoi, dédicace ?
Une
dédicace
à
qui ?
À ta famille.
Ça va passer à la
dédicace à Colisse.
Dédicace à Colisse. Notre prof de foot. Dédicace à nos potes, nos familles.
Ouais.
On est là.
Ouais.
Ouais. À mon chien. Dédicace à Axel.
Abonnez-vous
à la chaîne.
Ah, abonnez-vous
à ma chaîne. Ok, j'ai la pensée. J'ai en 240,
je suis sûre. Oh,
c'est stylé.
Ah bah, faut savoir que les postes sont nuls.
J'ai de la chance, j'ai énormément de chance d'avoir une famille qui m'a toujours soutenu,
quelles qu'étaient mes décisions passées, ils ont toujours été à me soutenir et à me pousser vers l'avant. Donc mes parents notamment ont toujours été fiers en fait du parcours que j'avais. Et notamment étant donné que lorsqu'ils sont arrivés dans les années 70 en France, ils étaient issus de l'immigration cambodgienne. Ils ont toujours été plutôt loin de l'école en fait, et avec une certaine distance à l'école, des très mauvaises notes, aucune formation après le collège par exemple pour certains de mes tontons qui ont totalement arrêté l'école le plus tôt possible en fait, c'était pas du tout quelque chose qu'ils aimaient. Et donc mes parents et la majorité de mes tontons tatas sont plutôt fiers en fait d'avoir un de leurs neveux qui maintenant représente une partie de l'école, qui a ce statut là d'enseignant. Pour mes parents, c'est surtout quelque chose qui les lie à la société, en fait. Le fait d'avoir un enfant qui est enseignant, maintenant, c'est j'ai fait quelque chose. J'ai mon travail dans le restaurant, mes efforts ont payé, mon fils est enseignant. Mes parents n'ont pas fait tous ces sacrifices pour rien, quoi. Voilà. Ils ont atteint un objectif et ça a été plutôt. J'ai eu la chance de les avoir avec moi. Lors des épreuves orales à Marseille. Donc ils sont venus avec moi pour cette épreuve en fait. Ils ont tenu à faire le chemin, les 800 km en voiture. J'ai le permis donc j'ai pu conduire avec mon papa. Alors par contre quand je conduisais pas en effet j'étais en train de réviser mes fiches quoi. Et donc les matins ils partaient, et je partais à ces épreuves assez complexes. Donc ils étaient avec moi, le soir ils rentraient, on mangeait, ça me donnait beaucoup d'énergie, il y avait un sens à tout ça quoi. Et donc ils étaient là pour moi.
Là, à chaque rentrée, la première semaine, je me dis cette année, j'arrête. Et je me dis, mais qu'est-ce que je fais là? Je veux pas rester, quoi. Et puis, les cours commencent. On est en classe, on est avec les élèves. Et ça, c'est quand même ce qu'on aime faire. Enfin, en tout cas, c'est ce que j'aime faire. Et moi, comme je dis, j'ai mes heures de cours avec mes élèves, c'est ma bulle, je suis bien, et puis tout le reste, j'essaye de ne pas trop y penser, parce que sinon...
Mais je voyais, oui, je sentais chez lui.
Voilà, Louis aussi,
il faisait confiance aussi, probablement.
Et on en a en moyenne 5 ou 6 par classe.
Une forme d'affection, enfin, quelque chose dont j'avais vraiment
besoin. Ils sont déjà établis, écrits, donc 5 ou 6 profils.
Vous m'avez dit ta première heure, il faut que tu commences tout de suite ton cours pour leur montrer que tu es un enseignant de ta matière.
Comme il y avait uniquement cette salle-là qui était disponible.
Là où j'ai pas eu beaucoup de chance, mais bon, c'est les années de la vie, c'est que moi j'ai posé ma démission.
Très fort, très. Bah si, en fait, je dis ça, hier, si j'ai fait quelque chose de théâtral, j'ai jeté un sac.
Venez donc.
J'étais rouge écarlate. J'avais transpiré. Vraiment, j'avais perdu 10 kilos.
Là, j'espère toujours que ça sert à quelque chose.
Vous assurez, là, je fais mon âge.
J'espère toujours que.
Prof. Ok, t'es encore jeune, tu n'as pas beaucoup d'expérience, mais t'es prof, t'es une vraie prof. Et là, bon, j'ai pu voir que tu tenais la classe, que tu réagissais à ce qui se passait, etc. Hein? Mais bon, voilà, on a parlé aussi un peu de pourquoi nous, enseignants, on tient souvent à avoir le silence dans les classes. Alors, c'est plus confortable pour nous, hein.
Ouais.
C'est sûr. On a l'impression que quand on parle, ils nous écoutent, du coup. Alors que c'est sûr que s'ils sont en train de discuter, bon, on sait qu'ils ne nous écoutent pas. Mais comme on l'a déjà dit ensemble, c'est pas parce qu'une classe est silencieuse qu'elle est au travail.
Ouais.
Elle peut être silencieuse, mais très passive, en attendant que ces pénibles moments s'achèvent.
Le fait de savoir qu'autant de personnes enseignantes veulent partir... pour moi, c'est un constat qui est assez triste, quand même, de savoir ça. Parce que le métier d'enseignant, c'est tellement un métier important pour la société. Mais je dois vous dire quand même, et je veux surtout pas me prononcer au nom de tous mes autres collègues, en fait. Mais c'est justement parce qu'il y a beaucoup de personnes qui démissionnent que moi je me dis que justement il faut que j'y aille quoi. Enfin, j'ai pas envie de laisser l'école partir en lambeaux. Moi en fait j'ai quelque chose à apporter en fait. J'ai quelque chose et je peux apporter quelque chose dans cette situation qui est un peu périlleuse. Et en fait je le vois encore tous les jours. Je vois des collègues qui se plaignent beaucoup de certaines classes. J'ai des aussi de la façon dont on est traité parfois. Mais moi ça me fait pas peur. Enfin, c'est justement parce que la situation est un peu terrible que bah justement il faut sûrement qu'on s'engage quoi. Et moi ce métier pour moi c'est une sorte d'engagement. En fait, être enseignant c'est un engagement. L'État, l'Éducation nationale nous donne cette possibilité d'accomplir cette mission qui nous est donnée. C'est une chance en fait. Moi je le vois comme une chance d'être là. Je suis fier de faire ce métier parce que l'école m'a beaucoup apporté. L'école m'a amené là où je suis maintenant. Et je suis fier maintenant d'apporter à l'école, en fait. C'est ça, en fait. C'est une histoire de passation, de transmission. Ça me traverse.
On se casse ou pas? On se casse ou pas? Oh mon Dieu, je suis libre! Bon, elle joue à rien dessus.
Merci à Madame Noblet, Mathéo, Gaël, Véro Desland, Soyane, David, Céline Kael, Monsieur Guillotto, Laurent Kaufmann et à Laurence Le Guen. Merci aussi à Olivia Biloc et aux élèves du Collège de la Coutancière à La Chapelle-sur-Erdre. Prise de son, Fabien Gosset et Christophe Papon, mixage Manon Houssin, documentation Annie Signoret, Archivina Marie Chauveau, chargée de programme Marie-Vanna Bolivier et Anaïs Morales, coordination Emmanuel Laurentin. Professeur Le Mal de l'école, 4e épisode Prof en devenir. Un documentaire de Joanna Bedeau, réalisé par Angélique Thibault. Les pages web, c'est sur franceculture.fr et le podcast sur l'appli Radio France.